RCF.
Je me trouve en compagnie de Madame Chantal Fouret et de Monsieur Michel Houtin, tous deux membres du collectif Chambles en Vie. Nous sommes sur le site d'Essalois, qui est situé sur la commune de Chambles. De là, on domine les gorges de la Loire, le barrage de Grandjean, et on aperçoit tout de suite, Michel Houtin, qu'on est dans un endroit qui a un caractère tout à fait stratégique, et ça, sans doute depuis très longtemps.
Alors oui, depuis très longtemps, puisque les Gaulois ont un oppidum à côté du château. Un oppidum qui date de moins 170 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 30.
Qu'est-ce que c'est qu'un oppidum ?
Alors, un oppidum, c'est une place forte gauloise, c'est-à-dire c'est un lieu dans lequel il y avait des habitations et autour duquel il y avait un rempart.
Et on sait ce qu'ils faisaient, les Gaulois, sur cet oppidum ?
Alors, on sait qu'il y avait du commerce, il y avait un commerce très important de vin. On suppose que le vin arrivait à Essalois et qu'il était mis sur des charrettes et transporté ailleurs, puisqu'on retrouve ici énormément d'amphores qui sont cassées.
Donc on a retrouvé des traces. Elles sont conservées quelque part, toutes ces traces d'occupation gauloise?
Alors effectivement, elles sont conservées pour la plupart au musée de la Diana à Montbrison.
Il y a eu les Gaulois, et puis ensuite, il y a quand même un château, parce que là, nous sommes à l'intérieur du château d'Essalois.
Alors avant qu'il y ait un château, il y a eu une tour. On suppose qu'elle est à peu près du 11e, mais on n'a trouvé aucune trace. Et le château lui-même date de 1580. Donc il a été construit par un maître des eaux et forêts de Montbrison.
C'est le seigneur d'Essalois.
Alors c'est le premier seigneur d'Essalois, parce qu'avant il n'y a pas de seigneurie. Effectivement, ça dépend de la châtellenie de Saint-Victor.
Alors on sait si le château actuel, il ressemble à ce château construit donc au 16e.
Alors il ne ressemble pas tout à fait, parce qu'il a été étendu, il est le plus important. Et puis surtout, il y a eu deux tours carrées qui ont été construites par Hippolyte de Sauzéa. Donc ça, à la fin du 19e.
Oui, alors ça, c'est beaucoup plus tard. Et alors, le but de ce château construit sur ce piton rocheux au-dessus de la Loire, c'était lequel ?
Alors ça, on ne sait pas du tout, parce qu'à l'époque, il n'y a plus de château féodaux. Et le seigneur qui fait construire ce château n'est pas un chevalier. Enfin, il n'a pas d'homme d'armes, puisqu'il est maître des eaux et forêts. Il a une charge. Il y avait d'autres châteaux forts qui étaient construits à cette époque, mais plus avec les mêmes fonctions que les châteaux forts à l'époque médiévale. Donc c'était plus une maison d'habitation, sans doute.
Voilà, donc il a été pas mal remanié au fil des siècles. La dernière grande rénovation, c'est celle de Monsieur donc de Sauzéa. En quelle année déjà ?
Alors ça, fin 19e, on ne sait pas exactement, mais disons la construction des deux tours, c'est fin 19e. Alors il a fait d'autres transformations, mais on ne sait pas lesquelles. Parce qu'il avait l'habitude, d'abord il avait plusieurs châteaux, il avait déjà deux châteaux, et il avait l'habitude de démolir et de faire construire. On sait qu'il a mis son blason, puisqu'il y avait encore le blason sur un fronton du château. Mais les transformations qu'il a faites, à part les deux tours, on ne sait pas.
Est-ce qu'on peut essayer de le décrire, Chantal Fouret, ce château dans lequel nous sommes, et tel qu'il se trouve aujourd'hui ?
L'aspect qu'il a actuellement, il le doit à la rénovation qui a été faite donc dans les années vers 1980. Donc c'est un château qui appartient maintenant au SMAG, le syndicat mixte des Gorges de la Loire. Donc son accès est public. Il est ouvert régulièrement dans la semaine. Voilà, on peut venir le visiter.
Et je crois d'ailleurs les Stéphanois et les gens aux alentours ne s'en privent pas.
C'est vrai qu'il est très fréquenté. C'est quelque chose qui est important dans la région, effectivement. On a craint un moment qu'il soit privatisé. C'est vrai que ça aurait été une nouvelle assez catastrophique. Donc à l'heure actuelle, il est consolidé, il est sécurisé, il est mis hors d'eau. Il bénéficie d'un toit-terrasse avec une couverture vitrée, donc il est très lumineux à l'intérieur. On a la possibilité, donc on a utilisé ça au moment des journées du patrimoine de façon assez régulière pour y installer des expositions. Les visiteurs peuvent facilement aussi monter dans une des tours donc qui domine les gorges de la Loire. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de mobilier, il y a à peine de fenêtres. Mais c'est vrai que c'est un endroit très agréable parce qu'il est surtout placé dans un site assez remarquable.
Eh bien, justement, on va y monter dans cette tour pour voir un petit peu la vue qu'on a de là-haut. Donc on vient de monter à la tour du château. On souffle un peu, Michel Autain, parce que c'est vrai que c'est un petit peu hard. Hein. Alors au début, on a un bel escalier en pierre. Après, c'est métallique. Et puis à la fin, une échelle. Hein. Il faut dire quand même que c'est bien sécurisé. Normalement, on ne craint rien. Alors c'est vrai qu'arrivé au sommet de la tour, on a une vue qui est magnifique à 360 degrés. Pourriez nous décrire, Michel Autain, le paysage que l'on aperçoit d'ici ?
Alors bien sûr, on aperçoit la plaine du Forêt. Et si on reste sur la commune de Chambres, donc tout à fait en face de nous, il y a le collège des Oratoriens qui s'appelle Notre-Dame-de-Grâce. Donc un collège qui a été construit en 1652. Enfin, le départ, les Oratoriens sont venus en 1608, mais disons le collège lui-même date de 1652. Et il a duré jusqu'en 1791, puisque ça a été vendu comme bien national à la même époque que le château des Salois.
Et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce collège ?
C'est un bâtiment qui est privé maintenant.
En plus des bâtiments scolaires, il y a aussi une chapelle, je crois.
Alors, ce qui reste, effectivement, il y a une chapelle, et puis il y a des communs qui sont habités également.
Donc, Notre-Dame des Grâces. Ensuite, on voit l'oppidum déjà.
Alors, on voit en face de nous l'oppidum, oui, qui est un monticule. Donc, l'oppidum, il faisait 21 hectares. Donc, il faisait tout le sommet, disons, de ce petit mont qui est en face de nous.
Alors ça, c'est ce qu'on peut apercevoir, on va dire, à l'ouest. Alors maintenant, si on se retourne, déjà, on aperçoit une jolie tour ronde du château. Il a quatre tours, ce château, deux carrés et deux rondes.
Effectivement, il a quatre tours. Donc, les deux plus anciennes sont les deux rondes, puisque le château, comme vous l'avez vu, a été, disons, étendu. Et les deux tours carrées sont les plus récentes, donc elles datent du 19e. Et puis juste à côté de la tour, donc on voit l'île de Grandjean, donc sur laquelle il y a également un petit château avec une tour. Alors cette tour, elle a la particularité d'être à peu près les mêmes dimensions que la tour de Chambres, c'est-à-dire qu'elle fait 33 mètres de haut, 33 mètres de circonférence.
On connaît l'histoire de ce petit château là sur l'île ?
Alors l'histoire est à peu près connue, elle a été écrite par l'abbé Signorin qui était de Saint-Just. On sait qu'il y avait des moines qui étaient là, qui étaient présents. Disons, dans les années plus récentes, c'est les Camadules qui sont venus après à Val-Jésus, l'endroit qu'on appelle également Camadule, donc il habitait.
Voilà, donc l'île de Grandjean avec son petit château. Qu'est-ce que l'on peut apercevoir d'autre ?
Alors, on voit l'ermitage des Camadules, qui est tout à fait au bord de la Loire maintenant. Donc, l'ermitage des Camadules, c'est le même fondateur que le Notre-Dame-de-Grâce. C'est-à-dire, c'est un noble qui s'appelait Vital de Saint-Paul, qui était né à Vassailleux, qui a créé l'ermitage en 1630 à peu près. Et ce sont des Camadules qui sont venus habiter. Ces Camadules, je vous le disais tout à l'heure, qui ont acheté le château des Salois et qui étaient seigneurs des Salois du même coup.
Vous parlez des Camadules, c'est un ordre religieux français ?
Alors c'est un ordre d'origine italienne, de Camaldoli. Donc je crois que c'est Saint-Néry qui avait créé cet ordre. Bon, qui ne s'est pas beaucoup étendu en France, hein, puisqu'il y a, je ne sais pas, une dizaine d'ermitages simplement. Et celui-là était assez important, disons, puisque c'est un des premiers, je crois, qui a été créé par Vital de Saint-Paul, je vous disais, et puis le moine qui était avec lui, qui s'appelait D'Antoine.
Voilà, donc le village des Camaldules, c'est un très joli site, toujours aujourd'hui d'ailleurs, sauf que maintenant il est au bord de l'eau, alors qu'auparavant il était en hauteur.
Il est un peu plus au bord de l'eau maintenant. Alors on voit également, à côté d'une tour carrée, là, le barrage de Grandjean. Donc le barrage de Grandjean, lui, il a été construit en 1956 et donc, bien sûr, ça a créé une étendue d'eau importante sur laquelle il y a un bateau-mouche, par exemple, qui fait un petit tour maintenant, qui fait le tour de l'île. Et puis, il y a des voiliers, il y a tout ça, il y a une base nautique à Saint-Victor. Donc ça a donné, disons, une autre image parce que les gorges étaient intéressantes, mais c'était aussi sombre. Hein, ça avait un côté quand même austère, alors qu'avec le barrage ici, on a un côté un peu plus riant.
Et puis le regard, il porte également beaucoup plus loin, même très loin.
Alors bien sûr, en face, on a toute la plaine du Forêt. Bon, on voit à nos pieds là, Saint-Rambert, Saint-Just, et puis le nouveau pont là qu'on voit un petit peu plus loin. Et puis après, ben, les monts du Lyonnais.
Et du Forêt.
Et du Forêt.
Après cette ascension de la tour, Michel Autain, nous sommes redescendus au rez-de-chaussée dans la salle des expositions parce qu'à l'occasion des dernières journées du patrimoine, vous avez tenu à réaliser une exposition sur le château des Salois. Alors, qu'est-ce que le public a pu découvrir à cette occasion ?
Je pense qu'il peut découvrir déjà trois maquettes qui montrent l'évolution du château. Enfin, depuis la première tour jusqu'à une maquette, disons, qui nous a été prêtée par un architecte de la restauration. Donc ça, déjà, un petit peu l'évolution, parce qu'elle est quand même assez obscure, cette évolution. Deuxièmement, on a essayé de faire aussi quelque chose sur le château, mais aussi sur le village. Donc il y a des photos du château, des photos de la restauration, par exemple du château en ruine, des photos du château habité avec des fenêtres, c'est assez surprenant, et puis des documents, donc par exemple le bref de vente de la vente du château au moment de 1791 à la Révolution. Et puis on a fait sur le village des Salois lui-même, on s'est intéressé un petit peu à la population, puisqu'on avait quelques données sur le Moyen-Âge, enfin très peu, mais quelques-unes, et on a essayé de regarder quelle était l'évolution du village lui-même, puisque dans les recensements, chaque hameau est différencié. Donc on a pu voir un petit peu l'évolution de ce village, par exemple, enfin, on peut être surpris du fait que, alors 1841, il y avait 55 personnes à Essalois. Ça nous paraît beaucoup, parce que maintenant, quand il y a 3 ou 4 habitants, c'est maximum.
Et ce château, donc vous disiez qu'à une époque, il a été vraiment habité. Il a été habité par qui ?
Alors, il a été habité sans doute par des fermiers, parce que les propriétaires, enfin, ceux qui ont été plus longtemps propriétaires, sont les Cambadules, donc ils possédaient un ermitage au bord de la Loire. Et ils avaient acheté ce château, pas pour eux, parce qu'ils ne voulaient pas habiter là, mais pour mettre un fermier. Et ça, c'est donc de 1673, grosso modo jusqu'à 1791. Il y a eu une interruption, mais peu importe. Donc des fermiers, et ensuite, il y a un noble qui l'a acheté au moment de la vente des comme bien national. Et puis, disons, la fin du siècle, la fin du 19e, jusqu'en 1940, ça a été occupé par un fermier. Alors, on a même rencontré, on a fait une petite vidéo sur laquelle on a rencontré qu'un monsieur dont le grand-père était fermier ici. À ce moment-là, ça appartenait aux hospices de Saint-Étienne et il le louait à un fermier. Et le grand-père l'a été fermier jusqu'en 1940, à peu près 35-40.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie.